Chapitre 44. La Gemma di Parigi. Malgré l'étendue du livre que nous publions et le plaisir qu'un auteur trouve toujours dans l'analyse du caractère de ses personnages, il n'entre point dans notre plan de suivre jour par jour la vie de nos trois jeunes gens. Ce que nous aurions fait si nous eussions publié leur histoire isolée, mais ce que nous n'osons risquer du moment que cette histoire n'est qu'un épisode de ce grand tout que nous livrons à la curiosité de nos lecteurs. Nous dirons donc seulement que Camille exécuta ses desseins comme il les avait exposés à Colomban. Carmélite, n'ayant pas d'objection à faire pour la rémunération de son travail en voyant le prix exorbitant des factures de Camille, accepta l'offre du jeune homme et, à partir de ce jour, l'intermédiaire, cette sangsue qui s'engraisse de la substance du producteur et de l'acheteur, étant supprimée, le bien-être entra dans la maison. Seulement la jeune fille fit plus de difficultés à l'endroit du piano nouvellement acheté et qu'il s'agissait de faire passer de l'appartement des deux amis dans le sien. Mais pressée par Colomban, pour qui elle avait une affection mêlée de respect, elle se décida à ouvrir sa porte à l'hôte mélodieux. Il y eut plus, elle consentit à recevoir des leçons de chant que les deux jeunes gens se chargèrent de lui donner tour à tour. Carmélite déchiffrait et exécutait brillamment, à première vue, les morceaux les plus hérissés. Son doigté était élégant, mais son ignorance en musique était au moins égale à son ignorance en amour. Elle jouait sans bien connaître la valeur de ce qu'elle jouait, et c'était là qu'on permet un instant à un profane de se mêler de ce qui ne le regarde pas, c'était là le grand vice de l'éducation musicale que les jeunes filles reçoivent dans les pensionnats. On farcit la tête des élèves d'une musique détestable sous prétexte que c'est de la musique facile. Ainsi, que le professeur soit malheureusement doué d'une de ces voix désastreuses que l'on appelle des voix de salon, ce qui signifie clairement une voix impossible pour le théâtre, qu'il ait en outre la fièvre endémique des chanteurs qui consiste à composer soi-même des romances, comme s'il suffisait d'avoir une voix quelconque pour être musicien, eh bien ce professeur va inculquer à toute cette jeune fille des fantaisies d'un goût presque toujours équivoque. S'il ne chante pas, le péril est à peu près le même. Au lieu de ses romances, il imposera ses quadrilles, ses valses, ses galops, ses fantaisies, ses variations, ses caprices, tristes caprices, sottes variations. Pour Dieu, mesdames les maîtresses de pension, exigez donc de vos professeurs qu'ils enseignent la musique qu'ils ont apprise et non pas celle qu'ils font. Comment ? Vous avez les chefs-d'œuvre de ces grands maîtres, de ces gigantesques génies qu'on appelle Haydn, Heindel, Gluck, Mozart, Weber et Beethoven, et vous autorisez les gavottes de ces messieurs. On croirait que c'est impossible. Point, la chose arrive, au contraire, tous les jours. La pauvre Carmélite, avec toutes ses dispositions naturelles, en était là. On ne lui avait jamais mis entre les mains que de la musique de troisième ou quatrième ordre, et elle ignorait tous les enchantements de la musique véritable. Aussi accueillit-elle avec enthousiasme les premières paroles des deux jeunes gens sur ce sujet. C'était tout simplement une révélation. Seulement une lutte s'engagea entre les deux amis. Colomban, grave et sérieux comme un Allemand, d'ailleurs élève du vieux Müller, trouvait toute la formule de ses pensées et de ses rêveries dans la musique allemande. Camille, vif et léger comme un Napolitain, ne comprenait, n'admirait, n'admettait que la musique italienne. Il y avait juste entre leur goût en musique la différence qui existait entre leurs caractères. Mille discussions s'élevaient entre eux à propos de l'éducation musicale de Carmélite. La musique allemande, disait Colomban, ce sont les passions humaines mises en musique. La musique italienne, disait Camille, c'est la rêverie mise en chanson. La musique allemande est profonde et triste, disait Colomban, comme le Rhin coulant à l'ombre de ses sapins et de ses rochers. La musique italienne est joyeuse et azurée, disait Camille, comme la Méditerranée à l'ombre des lauriers roses. Le combat se fût éternisé si le sage breton n'eût proposé un armistice. Colomban offrit de faire étudier simultanément à la jeune fille la musique de Beethoven et de Cimarosa, de Mozart et de Rossini, de Weber et de Bellini. Les deux routes étaient différentes, mais par un détour conduisaient au même but. On commença donc, et la jeune fille reçut les leçons des deux amis. Au bout de 3 mois, elle était en état de chanter très remarquablement un trio avec eux. À partir de ce jour, le bonheur était entré dans la maison, comme 3 mois auparavant, le bien-être y était entré par la même porte et par le même chemin. On se réunissait presque tous les soirs dans le petit salon de la jeune fille, dont Camille, homme inventif, avait eu l'idée de faire renouveler le papier un jour en l'absence de Carmélite, afin d'épargner autant que possible à l'orpheline le souvenir cruel de la chambre où sa mère était morte. On passait là entre 7 heures et minuit des soirées charmantes qu'on était tout surpris de voir s'écouler si vite. Colomban, doué d'une voix de baryton d'une ampleur prodigieuse, chantait tantôt un morceau de Weber ou de Mozart, tantôt un air de Méhul ou de Grétry. Camille avait une voix de ténor, d'une douceur, d'une pureté, d'une suavité angélique. Quand il attaquait l'air de Joseph, chant paternel, Hébron, douce vallée, il y avait dans son accent une telle tendresse, une tristesse si profonde, que Colomban ni la jeune fille ne pouvaient entendre la reprise de cet air sans sentir leurs yeux se mouiller de larmes. Carmélite n'osait chanter seule. Elle n'avait jusque-là fait entendre sa voix, et encore timidement, que dans les duos avec l'un ou l'autre des deux amis, ou dans des trios avec tous les deux. C'était une voix d'une largeur et d'une puissance extraordinaire. Dans certains airs en mineur, elle sortait de cette bouche d'enfant des notes éclatantes comme les sons de la trompette dans une marche funèbre. En d'autres moments, cette voix sanglotait comme les sons d'un violoncelle. D'autres fois, les notes qui s'en échappaient étaient douces comme les sons d'une flûte de cristal ou mélancoliques comme les accents du hautbois. Les deux amis l'écoutaient avec ravissement, et Camille, qui autrefois ne manquait pas un jour d'opéra, n'y avait pas remis les pieds depuis qu'il avait entendu pour la première fois ce qu'il appelait la perle de Paris, la Gemma di Parigi. Tous deux étaient surpris des progrès que Carmélite faisait d'heure en heure. Un soir, ils furent abasourdis en lui entendant chanter d'un bout à l'autre toute la partition de Don Juan, qu'il ne lui avait donnée que la veille. La jeune fille avait en effet une mémoire prodigieuse. Il lui suffisait d'entendre chanter une seule fois un morceau pour le répéter, note pour note, un quart d'heure après. Colomban avait toute une collection de musique allemande, mais en quelques mois elle fut épuisée. Alors Camille se chargea de pourvoir aux besoins de la Société Philharmonique. Il fouilla tous les magasins, faisant choix, comme de raison, des morceaux de ses maîtres favoris, morceaux que Colomban appelait des œuvres de basse latinité. La jeune fille dévorait fiévreusement toutes ses partitions et peu à peu sa tête s'ornait des œuvres principales de tous les grands maîtres. Et comme le chant ne lui faisait pas négliger l'exécution, il arriva qu'au bout d'un certain temps, elle était devenue une musicienne d'une science et d'un talent merveilleux. Les soirées se passaient donc ainsi à s'écouter chanter les uns les autres. C'était l'occupation principale. Et puis, après quelques morceaux, venaient quelques saillies de Camille, saillies irrésistibles, et qui jetaient ses auditeurs dans des accès de rire d'enfant. Ou bien encore, c'était une aventure de voyage, aventure piquante ou hasardeuse, mais toujours racontée chastement. Une chose surtout émerveillait Colomban, c'est que ce voyageur insoucieux qui, pour lui, avait visité l'Italie, la Grèce, l'Asie mineure, en oiseau de passage qui n'a rien vu, rien retenu, rien compris, semblait, depuis qu'il avait à raconter ses voyages à Carmélite, avoir voyagé à la fois en savant, en peintre, en poète. Tantôt il racontait des recherches au milieu des ruines, tantôt ses promenades au clair de lune, au bord des grands lacs, ses campements dans le désert aride ou dans les forêts vierges, et alors c'était un nouveau Camille, un Camille inconnu, au récit plein de couleurs, de passion, d'enthousiasme et de franchise. Colomban était tout étourdi de la métamorphose. Il lui apparaissait dans un éblouissant éclat. Ce n'était plus le gamin léger, éventé, insouciant et vantard, c'était un cavalier charmant, réunissant à la fois les qualités et la distinction de l'homme du monde, le brio et l'aventureux de l'artiste. Qui donc avait opéré ce miracle? Colomban l'ignorait, puis d'ailleurs il ne songeait pas à se le demander. Mais nous, lecteurs, qui sommes plus curieux que le Breton, cherchons ensemble d'où venait ce changement dans l'esprit et les manières de Camille de Rosan, comme il s'appelait parfois lui-même, moitié plaisamment, moitié fièrement. La cause de ce changement n'était pas difficile à trouver. Avez-vous vu un paon se promener seul sur l'arête aiguë d'un toit? Rien de plus beau, sans doute, mais en même temps, rien de plus triste, ni surtout de plus infatué de sa personne. Seulement qu'il aperçoive de loin une paonne, aussitôt il relève son éventail de diamants, de perles et de rubis. Eh bien, les diamants, les perles et les rubis dont les récits de Camille étaient semés rayonnaient de cette façon sous les regards de la jeune fille. Il faisait la roue, comme le dit une phrase triviale mais expressive. Il eût vécu 20 ans avec Colomban, qu'il n'eût pas fait à l'amitié l'honneur d'étaler pour elle une des pierres précieuses de son riche écrin. Mais pour ce dieu mystérieux et inconnu qui plane invisible au-dessus de la tête des jeunes filles, Camille n'avait pas assez de trésors de beauté, d'esprit et d'imagination. Il en est de deux vieux amis comme du mari et de la femme. Ils ne se croient pas obligés de se mettre en frais l'un pour l'autre. Mais qu'un tiers apparaisse, et à l'instant même la conversation va devenir étincelante, comme celle de deux muets retrouvant tout à coup la parole. L'honnête Colomban n'attribuait pas la taciturnité passée de Camille et sa volubilité présente à d'autres causes que le caractère inégal et capricieux du jeune homme. Pour Carmélite, élevée dans la sévère pension de Saint-Denis, devenue ensuite la garde-malade de sa mère et le témoin de sa mort, la tristesse avait fait jusque-là le véritable fond de sa vie, et le grave Breton continuait à son insu, et à l'insu même de la jeune fille, les leçons bienfaisantes mais attristantes du pensionnat. Si en ce moment, marchant droit à son cœur, une interpellation directe lui eût demandé quel était celui des deux jeunes gens qu'elle aimait le mieux, elle l'eût incontestablement, sans hésitation, par instinct naturel, par entraînement irrésistible, désigné Colomban. Son caractère sérieux, loin de la faire repousser, l'attirait à elle. Ils se rencontraient à chaque instant l'un l'autre dans les appréciations qu'ils portaient sur tous les sujets. Camille, au contraire, avait un caractère entièrement opposé à celui de la jeune fille. Ses vivacités l'inquiétaient, ses légèretés la choquaient. Elle était toujours prête, en sœur aînée, à le gronder comme un écolier, car sa nature, forte et résolue, lui avait donné sur Camille un peu de cet empire que Colomban avait pris dès le collège sur son condisciple américain. Elle avait pour lui bien plutôt cette sollicitude qu'on a pour les enfants que la tendresse qu'on éprouve pour un jeune homme. Lorsqu'elle travaillait et qu'elle voulait être seule, et si Camille entrait à l'improviste, elle n'était pas embarrassée pour lui dire « Allez-vous-en, Camille, vous me gênez ». Elle n'eût jamais osé dire une semblable parole à Colomban. D'ailleurs, Colomban ne la gênait jamais. Il en résulta que Carmélite elle-même se trompa sur ses sentiments. Elle prit peu à peu cette familiarité qui s'établissait entre elle et Camille pour une plus grande vivacité d'affection. Elle prit pour de la crainte cet amour respectueux mais profond qui l'attachait à Colomban. Colomban semblait la retenir, Camille paraissait l'entraîner. Elle était aimée par Colomban, elle était séduite par Camille. Comment l'enfance entrevoit-elle la vie, sinon comme une guirlande de fleurs dont la plus belle est la plus éclatante? Comment la jeune fille entrevoit-elle l'amour, sinon comme une terre promise où elle va pouvoir effeuiller sa couronne de rêves? La vie avec Colomban, c'était l'étude et le travail de chaque jour. La vie avec Camille, c'était un voyage éternel à travers le pays bariolé de la fantaisie. Si l'envie prenait à Carmélite d'apprendre le soir un morceau de musique dont on venait de parler, Colomban lui disait « Demain, vous l'aurez ». Mais Camille, prompt à contenter les désirs des autres, comme il était ardent à satisfaire les siens, Camille, fut-il minuit, la pluie tomba-t-elle à torrents, les magasins de musique fussent-ils fermés, les éditeurs fussent-ils endormis,
Camille, insouciant de la pluie et de l'heure, Camille courait à pied à travers tout Paris, allait faire tapage à la porte du marchand, jusqu'à ce que celui-ci, attiré par le prix exagéré que le jeune homme offrait, vu l'heure tardive, se décida à ouvrir. Un jour, au Luxembourg, Carmélite avait manifesté, assez vaguement d'ailleurs, le désir d'avoir une ou deux fleurs d'un marronnier rose. « Je connais, dit Colomban, un pépiniériste qui demeure rue de la Santé. À votre retour, vous aurez, chère Carmélite, une brassée de ces fleurs. » Mais Camille, agile comme un chat, malgré les justes reproches de Colomban, qui lui rappelait qu'ils étaient dans un jardin public, Camille était déjà grimpée dans l'arbre, avait cassé toute une branche du marronnier rose et était descendue triomphant, sans avoir été aperçue d'un seul gardien, car il y avait chez lui une espèce d'alliance entre le bonheur et l'audace. Un chiromancien qui eût étudié la main de Camille eût certainement reconnu et suivi, du Mont de Mars au poignet, la ligne de bonheur, droite, ferme et sans aucune déviation ni brisure. En effet, il était impossible d'être à la fois plus téméraire et plus heureux que ne l'était Camille. Ces faits et d'autres semblables qui se renouvelaient à tout propos et à chaque instant inspirèrent à Carmélite une grande affection pour le jeune homme, affection qui participait autant à l'étonnement que à l'admiration. Colomban s'aperçut à plusieurs symptômes de l'attraction que le créole exerçait sur la jeune fille. « C'est bien naturel, se dit-il d'abord, sans s'inquiéter de cette attraction. Il a la beauté, la gaieté, la grâce, l'éclat. Je n'ai, moi, que la tristesse et la force. » Puis, peu à peu, dans la probité de son cœur, et à mesure qu'il pensait ainsi, son front devenait plus sombre et son cœur plus serré. Peu à peu, il se disait « Mon Dieu, vous m'avez fait à 24 ans, grave et sévère comme un vieillard. Quel triste compagnon vais-je être pour une jeune fille de 18 ans dont tous les appétits seront antipathiques aux miens ?» Et cependant, ajoutait-il, doutant encore, « tout me dit que j'étais capable de faire le bonheur de Carmélite et que j'en aurais eu la puissance et la force, comme j'en ai le désir et la volonté. » Puis il les regardait, beaux, jeunes, souriants, pressés l'un à côté de l'autre, et il lui semblait que les deux auréoles de jeunesse qui saignaient leur front n'en formaient plus qu'une, et que c'était une auréole d'amour. Alors il secouait la tête, et debout, pâle, dans l'ombre, tandis que Camille et Carmélite rayonnaient de lumière. « Je voudrais inutilement m'illusionner, disait-il, ces deux jeunes gens s'aiment, et c'est justice. Ils semblent faits l'un pour l'autre. » Et cependant, j'avais rêvé une autre existence pour elle, chère Carmélite. J'en eusse fait une haute et fière dame. Camille voit mieux que moi, il en fera une femme heureuse. Et à partir de cette heure, Colomban, malgré des regrets poignants, malgré la tristesse qui l'envahissait de jour en jour, résolut de faire abnégation entière de lui-même et d'enrichir Carmélite des trésors qu'il avait amassés. Un soir que Camille et Carmélite avaient chanté d'une voix ravissante, appuyés l'un à l'autre, cheveux flottants, haleine mêlée, un duo d'amour dans lequel avaient vibré toutes les cordes de cette passion humaine qui touche presque à l'octave céleste, Colomban, en rentrant dans sa chambre, posa la main sur l'épaule de Camille, le regarda gravement et, des larmes plein les yeux, des soupirs plein la poitrine, mais d'une voix calme, il lui dit « Camille, tu aimes Carmélite ?»« Moi ? » s'écria Camille en rougissant. « Je te jure. » »« Ne jure pas, Camille. Écoute-moi, dit Colomban. Tu aimes Carmélite, à ton insu peut-être, mais tu l'aimes profondément, sinon de la même façon, du moins autant que je l'aime, moi-même. »« Mais Carmélite, dit Camille. » « Je n'ai point interrogé Carmélite, répondit Colomban. À quoi bon ? Non, je sais assez quel est l'état de son cœur. » J'avoue, à votre louange à tous deux, que la lutte a été longue et que c'est, en quelque sorte malgré vous, que vous avez été entraînés l'un vers l'autre. Voici donc quel est mon projet. Non, non, s'écria Camille, c'est à moi de te dire mon projet, Colomban. Il y a assez longtemps que je reçois de toi sans rien te donner, que j'accepte tes dévouements sans pouvoir te les rendre. Tu as peut-être raison, oui, je suis sur le point d'aimer Carmélite, de trahir notre amitié. Mais de cet amour, je te jure, Colomban, que je ne lui ai jamais dit un mot, et que jusqu'à ce moment, jusqu'à cette heure où tu vas l'arracher du fond de mon cœur pour le mettre devant mes yeux, je me le suis caché à moi-même. C'est la première faute que j'ai commise envers toi. Mais je te le répète, je ne me doutais pas, en glissant sur cette pente si douce de l'amitié à trois, je ne me doutais pas que j'allais tout droit à l'amour. Tu le vois pour moi. Merci, tu me le dis, tant mieux, il est encore temps. Oui, cher Colomban, j'étais sur le point d'aimer Carmélite, et cet amour me fait horreur, comme si Carmélite était la femme de mon frère. J'ai donc, en t'écoutant, en sondant mon cœur, en voyant l'abîme, pris une résolution suprême. Dès ce soir, je pars. Camille, je pars. Je vais mettre entre mes désirs et ma passion une barrière infranchissable. Je traverserai la mer et j'irai vivre au fond de l'Écosse ou dans l'Angleterre. Mais je quitterai Paris, mais je quitterai Carmélite, mais toi-même, je te quitterai. Et Camille se mit à fondre en larmes et se jeta sur le canapé. Colomban resta debout et ferme comme le roc de ses grèves où, depuis 6 000 ans, viennent se briser les flots de la mer. « Merci de ta généreuse intention, dit-il. Je t'en sais gré comme du plus grand sacrifice que tu puisses me faire, mais il est trop tard, Camille. »« Comment ? Trop tard ? » répondit le créole, relevant sa tête toute baignée de larmes. « Oui, trop tard, reprit Colomban. Quand j'aurai l'égoïsme d'accepter ton dévouement, arracherai-je maintenant du cœur de Carmélite l'amour qu'elle a pour toi ?»« Carmélite même, tu en es sûr ?» s'écria Camille, bondissant sur ses pieds. Colomban regarda le jeune homme dont le visage s'était séché comme sous les rayons du soleil doux. « Oui, elle t'aime, dit-il. » Camille comprit tout ce qu'il y avait d'égoïste dans cet éclair de joie qui, par ses yeux, venait de jaillir de son âme. « Je partirai, dit-il, loin des yeux, loin du cœur. » « Vous ne vous séparerez pas, répondit Colomban, ou plutôt, je ne vous séparerai pas. Je serais donc bien lâche si je ne savais pas dompter un amour qui ferait le malheur d'un frère et d'une sœur. « Colomban, Colomban !» s'écria le créole, voyant l'effort que son ami faisait sur lui-même. « Ne t'inquiète pas de moi, Camille. Les vacances arrivent dans quelques jours. C'est moi qui partirai. »« Jamais !» « Je partirai, aussi vrai que je te le dis. » « Seulement, ajouta le Breton, d'une voix tremblante, tu me promets une chose, Camille. « Laquelle ? Tu me promets de faire le bonheur de Carmélite. »« Colomban, fit le créole, en tombant dans les bras de son ami. « Tu me jures de la respecter tant qu'elle ne sera pas ta femme ?»« Devant Dieu, jura solennellement Camille. » « Eh bien, dit Colomban, s'essuyant les yeux, j'avancerai mon voyage de quelques jours, car tu comprends bien, Camille, continua le Breton d'une voix étouffée, si fort que je suis résigné de trop fraîche date pour avoir incessamment sous les yeux le spectacle de votre bonheur. Je vous affligerai comme un reproche. Je partirai donc dès demain, et mon désespoir aura cela de bon qu'il donnera à mon pauvre père quelques jours de bonheur de plus. Oh, Colomban, dit Camille, en embrassant le noble Breton, oh, Colomban, que je suis chétif et misérable à côté de toi, pardonne-moi de te condamner à cet éternel sacrifice de ton bonheur. Mais, vois-tu, mon cher, mon vénéré Colomban, je te trompais en disant que j'allais partir. Je ne serais pas parti, je me serais tué. Malheureux, dit Colomban, je partirai, moi, et ne me tuerai pas, j'ai un père. Puis, d'un ton plus calme, et cependant, dit-il, tu comprends que l'on meurt pour une femme que l'on aime, n'est-ce pas? Je ne comprends pas du moins que l'on vive sans elle. Tu as raison, répondit Colomban, parfois ces idées me sont venues à moi-même. « À toi, Colomban, dit Camille, effrayé, car ces paroles dans la bouche du sombre Breton avaient une bien autre signification que dans celle de l'insoucieux créole. « À moi, Camille, oui, mais rassure-toi, continua Colomban. Oui, tu l'as dit, tu as un père. Et puis encore, je vous ai tous deux, mes bons amis, et je craindrais de vous laisser un remords. Rentre donc chez toi, Camille, je suis calme, je n'ai plus maintenant qu'un désir, revoir mon père. » Et puis, quand le jeune homme, impatient d'être seul, l'eut laissé sombre et désolé comme un arbre dépouillé de son feuillage par le vent de décembre, « Mon père, continua Colomban, a juste dû ne le jamais quitter. »